Neuvième enregistrement. Deuxième partie du chapitre 4 intitulé « Lorsque Jésus a été sur le point de revenir ». Un court extrait de la fin de la première partie. Et le peuple de Dieu faillit à sa tâche. À des années de cette époque, aujourd'hui, nous nous posons cette question. Mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourrions-nous commettre la même erreur? À la page 187 du volume 1, des témoignages, Ellen White explique très clairement ce qui s'est passé. Beaucoup avaient été poussés par leur seule émotion et non pas par leurs principes et leur foi. Et ce message solennel les avait touchés. Il avait agi sur leurs sentiments et éveillé leurs craintes. Mais il n'a pas eu l'effet que Dieu en attendait. Ces personnes n'avaient pas purifié leur cœur de l'orgueil, de l'égoïsme, et des vaines passions. Et elle poursuit en termes qui font froid dans le dos et explique ce qui advient à ceux qui résistent aux efforts de sanctification venus du ciel. On dit aux anges, ne vous occupez pas de cela. Ils sont accrochés à leurs idoles. Pendant un temps, le message à Laodicée eut une influence considérable sur l'Église, gommant les différences, réconciliant les fidèles entre eux, poussant à des confessions sincères. Au plus fort de cette réforme, presque tous croyaient qu'elle permettrait le retour de Jésus. Mais cette expérience n'était que superficielle. Ils ne laissèrent pas au message le temps de faire son effet, d'influencer leur vie en profondeur afin qu'ils puissent donner complètement leur cœur et faire face aux défis inimaginables qui étaient devant eux en cette fin des temps. En résumé, les adventistes avaient failli à la seule chose qui pouvait leur permettre de mener leur mission à son terme. Ils n'avaient pas mis en application l'adventisme sous tous ses aspects, sans exception. Il y a là une ironie amère, car au milieu des années 1850, l'adventisme apportait au monde chrétien une des réponses les mieux centrées sur la croix. Pendant des siècles, les chrétiens avaient considéré le calvaire comme la délivrance de la culpabilité. 300 ans s'étaient écoulés depuis que Luther avait initié la réforme pour cette formidable doctrine de la justification par la foi. Et de nombreuses dénominations se fondaient depuis sur cette vérité essentielle. La seule chance de salut pour l'homme repose sur le pardon gratuit de Dieu. Mais il manquait encore quelque chose. Trop souvent, les croyants agissaient comme si la doctrine chrétienne commençait et se terminait par la seule justification, ce qui leur donnait un outil bien pratique pour se libérer du sentiment de culpabilité personnelle, sans effet remarquable sur le monde dans lequel ils vivaient. Un croyant en affrontait un autre sur les champs de bataille en Europe. Chaque camp invoquait la bénédiction de Dieu sur le carnage qui allait suivre. Trop souvent, les chrétiens n'avaient pas une réputation d'honnêteté particulière, ni de moralité irréprochable, ni de tempérance. En fait, les musulmans avaient fait leur ces critères de conduite prônés par le monde chrétien. Et le peuple chinois souffrait cruellement du trafic d'opium que les nations dites chrétiennes leur imposaient. Quelque chose ne fonctionnait pas correctement. Et les adventistes avait avancé une solution. La puissance de la croix ne s'arrêtait pas au pardon, disait-il, et le salut portait en soi une puissance illimitée, capable de transformer les vies selon les critères longtemps ignorés qu'on appelle la loi de Dieu. Pendant des siècles, les chrétiens avaient utilisé le mot « amour » sans se préoccuper de l'appliquer dans la vie de tous les jours. L'adventisme offrait une définition concrète de l'amour, 10 simples règles de vie qui disaient si oui ou non l'amour se traduisait en acte. Grâce à ce miroir, le chrétien n'avait plus d'excuses pour une vie à deux vitesses pleine de médiocrité. Ellen White a écrit dans Manuscrit 26 en 1885 ce qui suit. L'amour de Jésus remplira le cœur d'humilité et d'obéissance à tous ses commandements, dit-elle un jour. L'amour de Jésus qui va plus loin que les lèvres sauvera toute âme. Ne nous trompons pas là-dessus. Même si ces paroles pouvaient paraître dures, elles ne l'étaient pas plus que celles de Jean qui dit ceci. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. 1 Jean 2, 4. Lorsqu'on y réfléchit bien, la chrétienté ne pouvait vraiment pas fonctionner autrement. La meilleure façon possible de démontrer son amour pour Dieu est d'agir envers lui comme il le demande, et cela inclut de lui rendre un culte le jour qu'il a lui-même indiqué. Il n'existe pas de meilleure manière d'aimer son prochain que de pratiquer les 6 derniers commandements du Décalogue, tout simplement. Ainsi, en mettant de nouveau l'accent sur la loi, les adventistes avaient redécouvert une vérité vitale absolument essentielle avant que le Christ puisse revenir. Ils avaient un fondement théologique pour démontrer ce à quoi ressemblerait le peuple de Dieu à la fin des temps. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, nous est-il dit en Apocalypse, chapitre 14, verset 12. Mais tout ceci n'était que des mots tant que les actes ne suivaient pas pour une génération du peuple de Dieu. Pressentant qu'il s'éloignait de ce délai, James White avait mis les fidèles au défi par son message sur l'église de Laodicée, ce qui, pendant un temps, eut l'effet escompté. Comme un électrochoc, le message de Laodicée parcourut les rangs, écrivit l'historien Arthur W. Spalding. Il redonna vigueur à la doctrine du sanctuaire. On se tourna de nouveau vers la véritable source de paix et de puissance, le Christ. Si on l'avait largement accepté, il aurait rapidement permis au message de l'Évangile de s'accomplir dans toute sa gloire. Mais le travail réalisé ne fut pas suffisant. Dans l'ensemble, les gens se contentèrent de demi-mesures. Ils se contentèrent d'une petite victoire. C'est ainsi qu'ils manquèrent le but. Extrait de Arthur W. Spalding, L'origine et l'histoire des Adventistes du septième jour, Washington, D.C. Review and Herald, publication 1962, volume 2 et page 287. C'était une erreur qu'il n'aurait pas dû commettre, pas en 1857, car cette même année, il mettait la touche finale à une vérité théologique qui révélait avec clarté pourquoi la dernière génération terrestre devait adopter des normes de foi et de conduite élevées. La clé se trouvait dans la vérité qu'il commençait à comprendre dans tout son sens, celle du sanctuaire céleste. Pendant des siècles, les théologiens s'étaient opposés à propos d'une apparente contradiction concernant la foi chrétienne. D'une part, le croyant était assuré d'un complet salut par la foi. Le verset 12 de 1 Jean chapitre 5 « Celui qui a le Fils a la vie. » Cela met le futur dans le présent. Le salut possède une telle puissance qu'en sa présence le temps lui-même se déforme. Par la foi, on peut avoir l'assurance que la vie éternelle commence maintenant. Et d'autre part, Jésus dit très clairement que le croyant ne possède pas le salut pour toujours. Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, verset 21. C'est là que se trouve cette contradiction. Comment allier pleine assurance avec libre volonté personnelle, par lesquelles on peut, dans un premier temps, avoir l'assurance du salut, puis choisir ensuite de le refuser? Pendant des siècles, les chrétiens ont essayé de résoudre cette énigme. Calvin a tenté de traiter le problème à sa source, se libérer du libre arbitre en prônant la prédestination. Les théologiens catholiques ont eu une approche différente, donner l'assurance d'une seconde chance par le purgatoire. D'autres encore ont essayé d'expliquer en disant qu'au sommet de la conversion, on perdait sa volonté propre, si bien qu'il devenait impossible de changer d'avis et perdre le salut par la suite. Ils ont ainsi conduit à la doctrine de « une fois sauvé, sauvé pour toujours ». Aucune de ces solutions n'avait de sens ni ne pouvait se vérifier dans les Écritures. En 1857, l'adventisme formulait un système théologique qui apportait un éclairage sur ce dilemme et développait un modèle conciliant, pleine assurance et libre arbitre personnel. La clé résidait dans le service du sanctuaire. Le concept qu'il présentait avait de manière frappante de nombreuses similitudes avec le système en vigueur dans les cours de justice. Celle-ci accorde à chaque citoyen l'assurance de ses droits dans le présent, mais ces droits ne peuvent pleinement se concrétiser que dans le futur. Laissez-moi illustrer mon propos. L'analogie que je présente ci-après a déjà été évoquée dans mon ouvrage « Décision au Jourdain », publié par la revue Owen Herald en 1982, pages 65 et 66. Supposez qu'une épouse lésée se présente devant une cour de justice et prouve qu'elle est dans son bon droit pour demander le divorce. Dans la plupart des cas, la loi exige que le juge reporte sa décision finale à plus tard dans l'espoir que le mariage puisse être sauvé entre-temps. Le juge est devant un problème. Il a devant lui une personne qui possède un droit véritable, mais il ne peut pas encore le lui accorder. Sa solution ? Il dispose d'un arrêt interlocutoire provisoire. Il inscrit le nom de la personne dans le registre du tribunal. Il déclare ensuite qu'elle est en droit de demander un jugement définitif par la suite. À la fin de la période probatoire, si elle persiste dans sa requête, elle peut se représenter devant la cour et la réitérer. À partir de là, elle est assurée de son droit de manière absolue, mais peut néanmoins changer d'avis entre-temps. On lui a donné l'assurance ferme de son bon droit sans la priver de son libre arbitre. Je reconnais qu'il est dangereux d'essayer de donner aux choses célestes et aux concepts bibliques des illustrations humaines par des exemples tirés de nos institutions du XXe siècle. Mais ici, je pense que la comparaison est correcte. Je crois vraiment que je viens de décrire le mécanisme du plan du salut. Lorsqu'un pécheur vient à Dieu au nom de Jésus, il affirme son droit inaliénable que Dieu lui-même intérine, le droit de vivre pour toujours en sa présence. Ce droit a été payé au calvaire. Dieu a accepté de l'accorder. Dans les registres célestes de la cour de justice du ciel, son nom est inscrit parmi les rachetés. Être inscrit, en termes bibliques, c'est être porté dans le livre de vie. Mais le pécheur, même s'il s'est repenti, demeure un être libre de ses choix. Il lui est possible de refuser le salut par la suite. Ce n'est qu'à la fin du temps de probation que le décret prendra sa forme définitive, et ceci grâce aux preuves qu'il peut fournir, selon ce qu'il a fait, expression qui est écrite dans Apocalypse 20 au verset 13. Ainsi donc, toute personne sur terre, vivante ou morte, sauvée ou non, et certaine de passer devant le tribunal final. Dans Review and Herald du 29 janvier 1857, les adventistes avancèrent ceci. Ils ont créé un adjectif pour qualifier ce jugement, c'est le jugement investigatif. Pour la première fois depuis des siècles, cette doctrine plaçait le plan du salut dans un domaine de droit rationnel. Mais tapis dans cette explication se trouvait un problème d'une ampleur inimaginable qui se situait autour d'un événement qu'on appelle fin du temps de probation. Tout au long de l'histoire de la chrétienté, on avait affirmé que le temps de probation prenait fin avec la mort. Lorsque l'on mourait, la décision finale avait été prise concernant le salut personnel. En conséquence, plus rien ne pouvait modifier la destinée d'un être. Ainsi, associée à la plus grande tragédie humaine, se trouvait l'une des plus grandes bénédictions, car la mort donnait une dernière chance de salut. même si les personnes avaient péché de manière continuelle pendant leur vie, la grâce de Dieu pouvait encore leur parvenir à l'ultime moment de la mort. Le plus grand des pécheurs pouvait, dans un dernier sursaut de conscience, se saisir de la main de Dieu comme le bon larron au calvaire. Alors, avant que Satan puisse inventer un nouveau sujet de tentation, il pouvait s'endormir en paix dans la sécurité de la mort, à jamais à l'abri de ses tourments. En d'autres termes, pour de nombreuses personnes, la mort représentait une planche de salut, une voie de sortie d'urgence, grâce à laquelle elles pouvaient enfin se libérer des ultimes tentations. Il y a là une parcelle d'une profonde vérité. Tout ce que Dieu permet que ses enfants endurent, si douloureux cela soit-il, porte en soi une bénédiction plus grande. Au jardin d'Éden, le Seigneur dit à Adam et Ève qu'ils allaient mourir de manière certaine. En même temps, peut-être ne s'en sont-ils pas tout de suite aperçus. Il leur a procuré un lieu de refuge dans lequel ils pourraient enfin trouver la paix face aux insistantes occasions de tentation. Sans cette béquille, la mort comme échappatoire, il est difficile d'imaginer comment Adam aurait pu ne pas devenir fou à la vue du gouffre dans lequel ses descendants allaient être précipités, exception faite du salut qu'il fut offert. Pour lui, la mort était un état auquel il pouvait aspirer pour se reposer à jamais à l'abri de l'emprise du péché. Et il en a été de même pour le reste de l'humanité. Des milliards de personnes ont vécu sur terre, un grand nombre a sans doute accepté le salut, et cependant, dans toute l'histoire, seules deux personnes ne se sont pas servies de cette béquille de la mort. Elles ne sont pas passées par elle pour aller de ce monde à l'autre, enlevées par leur seule foi. Il s'agit d'Enoch et d'Élie. Ellen White dit que ces deux personnages représentent le type du peuple de Dieu qui sera vivant au jour du retour de Jésus. Et ceci nous ramène à l'adventisme des derniers temps, à l'échec de 1857 et aux défis pour l'avenir. D'une certaine manière, à un moment donné, la béquille de la mort n'existera plus. Une génération du peuple de Dieu aura à affronter la fin du temps de probation sans elle. Et ce sera tout à la fin de la chaîne génétique, lorsque la race humaine sera la plus dégénérée, la plus faible, et la tentation à son maximum, où il n'y aura plus de place où se cacher, où les armes humaines menaceront en tout lieu, où régnera la confusion religieuse, qui embrouillera la terre entière, et où nos plus brillantes lumières auront disparu, où les anciens frères seront devenus les pires ennemis du peuple de Dieu, époque à laquelle survivre à cette terrible épreuve nécessitera la foi de Jésus. Le temps de probation se terminera alors qu'une génération de gens sera encore en vie. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est sale se salisse encore, que le juste fasse encore la justice, et que celui qui est saint soit encore consacré. Je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour rendre à chacun selon son œuvre. Apocalypse, chapitre 22, versets 11 et 12. Bientôt, mais pas tout de suite. Jésus met fin au temps de probation, mais il n'est pas encore revenu. Toute une génération de personnes est déclarée rachetée éternellement, tout en étant encore en vie, théoriquement capable de tourner le dos à Dieu. Comme Enoch et Élie, ils feront face au temps de probation sans avoir la mort comme solution de dernier recours. Voilà le genre de risque que prend notre Créateur. Il accorde le salut à des mortels qui affronteront les pires conditions de vie que le monde ait jamais rencontrées. Ils ne devront survivre que par la foi. Mais à ce risque est associée une merveilleuse bénédiction, une ultime et claire démonstration de la puissance de la croix. Si par la foi de Jésus, son peuple peut être vainqueur de cela, Alors le calvaire est plus qu'un simple mécanisme qui libère du péché. Il est suffisamment puissant pour permettre aux croyants de rester fidèles, quelle que soit l'épreuve. Et l'univers peut se sentir en sécurité. Le péché disparaîtra définitivement et le conflit sera terminé à jamais. Voilà quelle était l'idée nouvelle présentée par le message adventiste à son origine. Au travers du sanctuaire, on découvrait un nouvel idéal de vie chrétienne, et Ellen White l'exprima dans les termes les plus puissants qu'elle ait jamais utilisés. Voici ses paroles. « Ceux qui vivront encore sur cette terre, lorsque le Christ aura cessé d'intercéder dans le sanctuaire céleste, devront se tenir devant le Dieu Saint sans l'aide d'un avocat. Leurs robes devront être immaculées, leur caractère libéré du péché par le sang aspergé. Avec la grâce de Dieu et par leurs propres efforts, ils devront être vainqueurs dans leur lutte contre le mal, tandis que le jugement investigatif sera en cours dans le ciel, tandis que le péché de ceux qui se seront repentis seront effacés dans le sanctuaire. Il devra y avoir un travail particulier de purification, d'effacement du péché parmi le peuple de Dieu sur terre. Lorsque ce travail sera terminé, les disciples du Christ seront prêts pour la parousie. » Cette page se trouve dans le livre « Le Grand Conflit » ou bien un autre titre pour le même livre « La tragédie des siècles », page 425. C'était donc cela. En 1857, le peuple de Dieu n'avait tout simplement pas terminé son travail de préparation pour pouvoir aller à la rencontre du Christ. Ils avaient fait celui du réveil et de la réforme, ils avaient publiquement confessé leurs péchés et s'étaient repentis, mais ils n'avaient pas laissé à Dieu le soin de terminer l'œuvre nécessaire pour qu'il soit complètement prêt pour la venue de Christ. Avec tristesse, Ellen White parla de orgueil, mode, conversation futile, égoïsme. Il fallait quelque chose de plus. Il devait persévérer dans un travail particulier, un refus total du péché. Il leur fallait être vainqueurs dans leur lutte contre le mal. Ils avaient tout simplement abandonné le combat trop rapidement. Voici encore deux extraits de « Dans le grand conflit » à la page 425. Et également dans Témoignages volume 1, page 189. Presque tous pensaient que ce message se terminerait par le grand cri du troisième ange, écrivit Ellen White en 1959. Mais comme ils ne se rendirent pas compte de l'œuvre immense accomplie en peu de temps, beaucoup ne laissèrent pas au message le temps de faire son effet. Je vis que ce message ne pouvait avoir d'influence sur un laps de temps de quelques mois seulement. De fait, c'était tout à fait exact. C'était un programme qui devait transformer leur vie tout entière avant que puisse être poussé le grand cri du troisième ange. Il fallait un certain temps, en tout cas, plus que quelques mois, dit Ellen White, dans Témoignages volume 1, page 186. Cela aurait pu se passer bien plus rapidement que beaucoup le pensaient. En 1857, comme les membres d'église commençaient à se lasser de ce réveil, ils en restèrent à environ un tiers du processus qui aurait pu amener le retour de Jésus. En fait, tout ce qui était nécessaire à leur préparation pour cet événement aurait pu être accompli s'ils avaient persévéré 2 années de plus. Le 15 juillet 1859, seulement 24 mois après que James White eut publié son message sur la Odyssée, Madame White écrivit « Dieu a accordé un délai suffisant maintenant pour laisser au message le temps de faire son effet. Il aurait pu être à terme en quelques mois, mais 3 ans plus tard, il avait en tout le temps nécessaire pour faire son œuvre, le temps pour réveiller l'Église par un appel à une réforme, le temps pour une confession des péchés et pour créer l'unité entre les fidèles, le temps pour se préparer au grand cri du troisième ange. L'ensemble du processus aurait pu se dérouler en moins de 3 ans au total. » Moins de 3 ans, et le peuple de Dieu aurait pu voir une autre Pentecôte. Remplis de puissance grâce au ciel, ils auraient pu aller par le monde entier, déjà préparé par les anges. et la guerre civile n'aurait pas eu lieu et 5000 vies n'auraient pas été perdues. Et tout comme l'a dit Ellen White, les esclaves auraient pu être libérés, non pas par un conflit armé, mais par le retour de Jésus. Tout était tellement proche. Ce qui nous ramène à l'époque actuelle. Si les leçons de l'histoire sont exactes, tous les éléments nécessaires pour préparer l'adventisme à la seconde venue du Christ peuvent être rassemblés en moins de 3 ans. Cela signifie que le ciel est proche. Il ne s'agit pas d'un rêve lointain qui s'évanouit comme un mirage. C'est la réalité. Nous pourrions nous en saisir. La préparation finale du peuple de Dieu peut être accomplie au cours de la vie de ceux qui lisent ce livre. 3 ans, 3 hivers de plus, 3 étés de plus, et nous pourrions être prêts pour quelque chose de plus puissant que la Pentecôte. L'Évangile répandu dans le monde entier, les événements mondiaux se précipitant et l'histoire atteindrait sa conclusion. Nous lisons dans « La foi qui me fait vivre » à la page 340. 3 ans, 3 hivers de plus, 3 étés de plus, et nous pourrions être prêts pour quelque chose de plus puissant que la Pentecôte. L'Évangile répandu dans le monde entier, les événements mondiaux se précipitant et l'histoire atteindrait sa conclusion. Il est impossible d'avoir idée de ce que vivra le peuple de Dieu encore sur cette terre lorsque les anciens malheurs et la gloire céleste seront mêlés, dit un jour Ellen White. Ils marcheront dans la lumière jaillissant du trône de Dieu. Par l'intermédiaire des anges, terre et ciel seront en contact permanent. Je répète, la foi qui me fait vivre à la page 340. Tout ceci pourrait être nôtre, tout ceci et le ciel en plus. Et ceci nous amène à cette grande question. Pouvons-nous faire en sorte que cela arrive ?